السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله en cette soirée du mercredi 22 juin الأولى 1434 de l'Hégire, correspondant 3 avril 2013 بإذن الله تعالى. Donc nous sommes avec le livre Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, c'est le cours numéro 21. بإذن الله تعالى, aujourd'hui, on va parler de shukr. On va parler de shukr, c'est-à-dire la reconnaissance. طيب, on commence, inshallah ta'ala. Bakr ibn Abdillah al-Muzani, rahimahullah, a dit, si tu veux savoir combien Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé de bienfaits, alors ferme les yeux. Je répète, si tu veux savoir combien Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé de bienfaits, alors ferme les yeux. Vous vous souvenez, je vous ai dit ça une fois, je vous ai dit que, il y a un insan qui ferme les yeux alors 5 minutes ou 10 minutes, ensuite il rouvre les yeux et il voit vraiment la différence entre la situation dans laquelle il était et maintenant quand il a ouvert les yeux, comment yani, il voit ce beau monde devant lui, mashallah. C'est pour cela que si quelqu'un va essayer de fermer les yeux une demi-heure, et je sais que c'est très difficile, une demi-heure, ça va être pour lui une éternité. Mais s'il essaye, essayez si vous pouvez. Fermez les yeux un quart d'heure ou la demi-heure, ensuite rouvrez-les et vous voyez, bi'idhnillahi ta'ala, grande ni'ma dans laquelle on est, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam, comme j'ai dit la fois passée, des fois je le fais même dans la rue, comme ça, quelques mètres, 5 mètres, 10 mètres, pas plus. On risque de se cogner la tête ou là. Mais quand tu ouvres les yeux, tu vois, subhanallah al-adhim. C'est dire aussi que yani l'aveugle yani comment bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala yani le voyant le dépasse dans cette ni'ma bi'idhnillahi ta'ala, même si Allah subhanahu wa ta'ala a sûrement compensé l'aveugle et lui a donné des choses qu'il n'a pas donné au voyant. Comme vous remarquez que celui qui est aveugle, d'un côté il a la ni'ma de ne pas voir le haram, la ni'ma de ne pas être éprouvé par les fitna de la rue par exemple. Naam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a compensé aussi à l'aveugle en lui donnant une forte mémoire. Vous remarquez que les aveugles, s'ils veulent apprendre le Coran, ils l'apprennent par cœur. Pourquoi ? Allah ta'ala leur donne une forte mémoire pour leur avoir pris leur vue, bi'idhnillahi ta'ala. Ruh ibn al-Qasim, rahimahullah, rapporte, il a dit, un dévot dit un jour, un dévot, quelqu'un, mashallah, de pieux, etc., un adorateur, il a dit, je ne mange pas de marmelade de dattes ou de gâteau. Fallujah. Je ne mange pas de marmelade de dattes ou de gâteau. Autrefois, yani, marmelade de dattes ou gâteau, c'était pas donné à tout le monde. Il a dit, car je ne peux pas me montrer assez reconnaissant. Je ne mange pas de marmelade de dattes ou de gâteau, car yani, je ne peux pas me montrer assez reconnaissant. Il a dit, j'ai rapporté cela à Al-Hassan, Hassan Basri, qui dit, cet homme est sot, cet homme qui vient de dire ça est sot. Peut-il se montrer assez reconnaissant pour l'eau fraîche? Peut-il se montrer assez reconnaissant pour l'eau fraîche? Naam. Celui-là, c'est un sot qui a dit, je ne mange pas de marmelade ou de gâteau, car je ne peux pas être reconnaissant. Alors, on lui pose la question, peux-tu te montrer assez reconnaissant seulement pour l'eau fraîche que Allah subhanahu wa ta'ala te donne. Naam. C'est pour ça que dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète alayhi wa sallam a dit inna awwala ma yus'alu anhu al-'abdu yawm al-qiyamah min an-ni'am min an-na'im an yuqala alam nusih laka jismak wa narwiyaka min al-ma' al-barid. Qala Cheikh al-Albani sahih 2022 dans Sahih al-Jami'. Le prophète alayhi wa sallam a dit que la première des choses sur lesquelles le serviteur sera questionné le jour de la résurrection, c'est qu'on lui dise « Ne t'attends pas, on est un corps sain et on t'a abreuvé d'eau froide. » Allahu Akbar. C'est parmi les premières choses sur lesquelles l'être ou le serviteur va te questionner. On va lui dire « Est-ce qu'on t'a pas donné un corps sain ?» Et regardez la deuxième question qui a rapport avec le corps. On t'a pas abreuvé d'eau froide? Quelqu'un qui croit que l'eau froide, c'est pas une ni'ma. Et la ni'ma, c'est les boissons gazeuses ou la Coca-Cola ou là ou là. Jamais ça ne peut égaler l'eau froide. Surtout pour quelqu'un, par exemple, qui a soif. Et on lui ramène de l'eau froide. C'est la plus grande ni'ma qui puisse exister dans les choses qui se boivent. C'est pour ça qu'il y a un hadith sahih que je viens de me rappeler maintenant, qui dit en ce sens, il dit que la meilleure aumône, c'est l'aumône de l'eau. La meilleure aumône, c'est de donner à quelqu'un de l'eau, quand s'il demande l'eau. Naam. Saïd al-Jariri, rahimahullah, revint du pèlerinage. Et il se mit à dire, lors de notre voyage, Allah nous a accordé tel et tel bienfait. Puis il dit, dénombrer les bienfaits est un moyen de s'en montrer reconnaissant. Donc, quand il revenait du pèlerinage, il se mit à dire, lors de notre voyage, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé tel et tel bienfait. Puis il dit, dénombrer les bienfaits est un moyen de s'en montrer reconnaissant. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans Sourate Ad-Duha, verset 11, wa amma ni'mati rabbika fahaddith. Il a dit, et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Naam. Quand il a dit en arabe, ni'mati rabbika, ici c'est ni'ma, c'est un seul bien sûr, mais ça s'appelle en arabe mufrad mudaf. Il a été annexé au Seigneur, ni'mat rabbika. Ça, je disais que la personne doit quoi? Doit bi'idhnillahi ta'ala montrer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Si tu montres les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu en parles que Allah ta'ala t'a donné ceci ou cela, bien sûr en évitant le mauvais œil, bien sûr, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont montrés reconnaissants. Un pieux prédécesseur, rahimahullah, a dit, perdre la rétribution liée au malheur est pire que le malheur lui-même. Allahu Akbar, c'est très important. Un pieux prédécesseur a dit, perdre la rétribution liée au malheur est pire que le malheur lui-même. Subhanallah al-Azim, le malheur, un malheur, ça fait mal, ça chagrine, ça ceci, ça fait pleurer, malish. Mais il y a un malheur plus grand que celui-là. C'est quoi? C'est le fait de perdre la rétribution liée au malheur. Comment on perd la rétribution liée au malheur? Premièrement, des fois la personne ne sait pas, c'est un jahil. Il ne sait pas que chaque personne qui est atteinte d'un malheur, a quoi? Yani, ça lui annule les péchés. Il ne sait pas. Même sans patience, même si la personne ne patiente pas, ça lui annule les péchés. Et des fois, la personne ne sait pas que yani, ça lui annule les péchés. C'est pour ça que yani, il ne supporte pas facilement. Et des fois, la personne, quand elle a un malheur, elle commence à faire des choses par la religion. Comme yani, se griffer le visage, se tirer les cheveux, se déchirer les vêtements, et comme ça. Non. Et qu'est-ce qu'il fait alors, au miskin? Il ne prend pas, yani il perd là la rétribution qui était liée à ce malheur s'il avait quoi? S'il avait patienté. Non. S'il avait pas. Car toute personne, bi'idnillahi ta'ala, non, qui, lorsqu'elle est atteinte d'un malheur, en plus du fait yani d'être atteinte, elle patiente. Alors elle aura deux choses. L'annulation des péchés et la rétribution liée au malheur, bi'idnillahi ta'ala. Non. Abd al-A'la al-Taymi, rahimahullah, a dit. Abd al-A'la al-Taymi, rahimahullah, a dit. Il a dit multiplier les demandes. Multiplier les demandes de préservation. Car celui qui est éprouvé, même si son épreuve est grande, ne mérite pas plus d'invocation que celui qui est préservé, mais n'est pas à l'abri de l'épreuve. Il a dit ceux qui sont éprouvés aujourd'hui sont ceux qui étaient préservés hier. Et ceux qui seront éprouvés demain sont ceux qui se sont préservés aujourd'hui. Une épreuve peut épuiser en cette vie et humilier dans l'au-delà. Non, je répète ce qu'il a dit. Je dis entre parenthèses, Jazeera, est-ce que tu m'entends? Non, si c'est possible, connaissance ou choc que j'ai écrit là, que j'affiche, si c'est possible, faire un papier, comment ça s'appelle, copier-coller, de la mettre sur le Manara. Comme ça, tu fais ça à ma place. Taïb. Je répète, il a dit multiplier les demandes de préservation. Multiplier, il faut beaucoup demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Il a dit, car celui qui est éprouvé, même si son épreuve est grande, il ne mérite pas plus d'invocation que celui qui est préservé. Non, il ne mérite pas plus d'invocation que celui qui est préservé, mais n'est pas à l'abri de l'épreuve. Mais n'est pas à l'abri de l'épreuve. Il a dit, ceux qui sont éprouvés aujourd'hui sont ceux qui étaient préservés hier. Et ceux qui seront éprouvés demain sont ceux qui sont préservés aujourd'hui. Une épreuve peut épuiser en cette vie et humilier dans l'au-delà. Donc, yani on ne fait pas des douas et des invocations seulement yani, pour que Allah subhanahu wa ta'ala yani, éloigne de nous yani, pour que Allah subhanahu wa ta'ala éloigne de nous le malheur. Naam. Mais on doit faire, on ne fait pas seulement lorsque le malheur nous atteint, mais on doit faire aussi des doigts pour que le malheur yani, et l'épreuve ne viennent pas du tout. Non. C'est pas seulement que lorsqu'on a un malheur, on commence à demander subhanahu wa ta'ala de le refouler. Mais même quand on ne l'a pas, on fait des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala ne le donne pas. Et d'un autre côté, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'être préservé. Mutarrif rahimahullah, a dit, j'ai cherché un bien ne contenant ni mal ni défaut. Et j'ai trouvé qu'il s'agissait du serviteur préservé et reconnaissant. J'ai cherché un bien ne contenant ni mal ni défaut. Et j'ai trouvé quoi? Qu'il s'agissait du serviteur préservé. Alhamdoulilah, il est préservé et il est reconnaissant. Préservé et reconnaissant. Al-Maharajuri, rahimahullah, a dit, aucun bienfait ne disparaît si tu te montres reconnaissant. Et aucun bienfait ne perdure si tu le renies. Allahu Akbar. Ça devait être écrit en or, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Je répète ce qu'il a dit, bi'idnillahi ta'ala. Il a dit, aucun bienfait ne disparaît si tu te montres reconnaissant. Voilà, si la personne se montre reconnaissante, jamais le bienfait, Allah subhanahu wa ta'ala, ne te le prend et ne disparaît. Et aucun bienfait ne perdure si tu le renies. Mais par conséquent, si on renie le bienfait, jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne nous le laisse. C'est pour ça qu'il est demandé en islam, yani de quoi ? De demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, yani, de préserver les bienfaits qu'il nous donne. Sinon, le bienfait, comme vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala le prend si on le renie. D'ailleurs, dans le Coran, سورة إبراهيم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai pour vous. Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala donne un bienfait, c'est quoi notre devoir de reconnaissant? Allah ta'ala dit, si vous êtes reconnaissant, alors très certainement j'augmenterai bienfait pour vous, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala en parlant de Nuh alayhi salam. En parlant de Nuh alayhi salam, il a dit ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. Ô vous, les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche, celui-ci est un serviteur fort reconnaissant. Comment qu'était Nuh alayhi salam? Un serviteur fort reconnaissant. Fort reconnaissant. Et après lui, comment qu'était Ibrahim alayhi salam? إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا. وَلَمْ يَكُمْ مُشْرِكِينَ. Ibrahim était un guide parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui. Il n'était pas du nombre des associateurs. نعم. شَاكِنٍ لِأَنْعُمِهِ اشْتَبَاهُ وَهَدَهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Il était reconnaissant pour ses bienfaits et Allah l'avait élu et guidé vers un droit chemin. Ce qui a relation avec le cours, c'est quoi? Il était reconnaissant pour ses bienfaits. Donc Ibrahim, c'est comme nous, alayhi salam. C'est comme nous, alayhi salam. Et aussi Moussa, alayhi salam, Moussa. Allah Ta'ala a dit, « Qala ya Moussa, tafaytuka ala nasi bi risalati ou bi kalami, faqatituka kun min shakirin. » Allah Ta'ala a dit, « Ô Moïse, je t'ai préféré à tous les hommes par mes messages et par ma parole. Prends donc ce que je te donne et soit du nombre des reconnaissants. » Il lui demande d'être des nombres des reconnaissants. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en parlant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, « Balillaha fa'abud wa kun min shakirin. » Tout au contraire, adore Allah azza wa jal seul, et soit du nombre des reconnaissants. Et soit du nombre des reconnaissants. Donc vous voyez que, les prophètes avant nous, Allah Ta'ala leur a demandé d'être reconnaissants. Et ils ont été tous, alhamdoulilah, reconnaissants. Donc nous, on suit leur pas. Et on devrait aussi être reconnaissants, bi'idhnillahi ta'ala, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un bienfait. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un bienfait. Abu Qilab, rahimahullah, a dit, Allah vous a accordé des largesses et il ne vous causera aucun tort en ce bas monde si vous vous montrez reconnaissant pour cela. Allah Ta'ala vous a accordé des largesses et il ne vous causera aucun tort en ce bas monde si vous vous montrez reconnaissant pour cela. Su'adi ibn Abi al-Hajjar rahimahullah rapporte, il a dit, nous entrions chez il Mughira et lui disions, comment vas-tu ce matin? Il répondait, ce matin nous sommes plongés dans les bienfaits. Ce matin, comment nous sommes? Nous sommes plongés dans les bienfaits, les ni'am d'Allah subhanahu wa ta'ala, négligeant quant à la reconnaissance que nous devrions montrer pour cela. Il a dit, notre Seigneur cherche à se faire aimer de nous, alors qu'il se passe de nous. Et nous provoquons sa répugnance vis-à-vis de nous, alors que nous avons besoin de lui. Allahu Akbar. Comment vas-tu? Il dit, ce matin nous sommes plongés dans les bienfaits. Ça veut dire les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Négligeants, nous sommes négligents quant à la reconnaissance que nous devrions montrer pour cela. Notre Seigneur cherche à se faire aimer de nous alors qu'il se passe de nous. Et nous provoquons sa répugnance vis-à-vis de nous alors que nous avons besoin de lui. Subhanallah al-Azim. C'est tout à fait le contraire. Salam ibn Salim, rahimahullah, a dit, montre-toi plus reconnaissant pour le bienfait d'Allah dans ta religion que pour le bienfait d'Allah dans ta vie d'ici-bas. Je répète, montre-toi plus reconnaissant pour le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ta religion que pour le bienfait d'Allah dans ta vie d'ici-bas. Naam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne un bienfait. Ce bienfait, ou bien il a rapport avec la religion, ou bien il a rapport avec quoi? Avec yani, le bas monde. Il te dit ici, sois plus reconnaissant envers le bienfait d'Allah qui vient pour ta religion que celui qui vient pour le bas monde. Allah ta'ala peut donner des bienfaits du bas monde. Une belle maison, une belle voiture, beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent. Naam. Tout ça, ce sont des biens qui viennent yani, pour le bas monde. Il faut être reconnaissant pour ces bienfaits. Mais quand le bienfait a rapport avec l'homme, il est plus important. C'est pour cela qu'on doit être plus reconnaissant envers ce bienfait que le bienfait du bas monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre ta poitrine, par exemple, pour la demande, la quête de la science. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre la poitrine pour apprendre le Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre la poitrine pour lire les livres des salaf, tafsir, ceci, cela. Ça veut dire que tu dois être beaucoup reconnaissant envers ce bienfait que les bienfaits du bas monde. D'ailleurs, sur B3B7, regardez ce que dit ici Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. الله تعالى يقول له برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يونس 58 dit يا محمد de la grâce d'Allah et de sa miséricorde voilà de quoi il devrait se réjouir voilà de quoi on doit se réjouir c'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent grâce d'Allah et des biens d'Allah voix et de sa miséricorde voilà de quoi on devait se réjouir c'est bien mieux tout ce qui passe. À quoi ça sert que Allah subhanahu wa ta'ala te donne tous les biens du bas monde, mais que tu es égaré. Mais que ton cœur, c'est plein d'obscurité, des ténèbres. C'est un gouffre, un puits profond, un puits obscur. À quoi ça? Peut-être que je vais finir par me suicider. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala m'ouvre ma poitrine pour ce dîn, pour aimer Allah, pour me rapprocher de lui, j'ai tout gagné. J'ai gagné ici, et quand je meurs, je gagne. Premièrement, d'être épargné de l'enfer. Et deuxièmement, le paradis éternel. Naam. Dit de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi on devrait se réjouir. Naam. C'est bien mieux que tout ce que yani, on puisse amasser dans ce bas monde. Abu Hazim Salama ibn Dinar a dit tout bienfait qui ne rapproche pas d'Allah est une calamité. Tout bienfait qui ne rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est un malheur et une nuisance. Non, mais à quoi ça sert que Allah subhanahu wa ta'ala me donne un bienfait qui va m'aider d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien qui va m'attirer et à cause de lui je vais m'attirer des péchés. À quoi ça sert? Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me servir de ce bienfait. Non, je ne voudrais pas de ce bienfait, un bienfait qui va m'éloigner d'Allah subhanahu azza wa jal. Non. Lorsqu'on demande à Abu Tamim al-Basri, on lui disait comment vas-tu? Il répondait je me trouve entre deux bienfaits, un péché caché que personne ne connaît et les éloges de ces gens alors que je ne suis pas tel qu'ils le disent. Je me trouve entre deux bienfaits, un péché caché que personne ne connaît et les éloges de ces gens alors que je ne suis pas tel qu'ils le disent. Ayyub ibn al-Mutawakkil rapporte, il a dit, lorsque le Khalil, rahimahullah, était utile à quelqu'un, il ne lui montrait pas qu'il lui avait été utile. Et lorsque quelqu'un lui était utile, il lui montrait qu'il lui avait été utile. Subhanallah al-Azim, la modestie. Lorsque il était utile à quelqu'un, il ne lui montrait pas qu'il lui avait été utile, pour ne pas lui faire de rappel. Et lorsque quelqu'un lui était utile, il lui montrait qu'il lui avait été utile. Naam. Amr ibn Uthman al-Makki, rahimahullah, rapporte, il a dit, j'ai vu Muhammad ibn Abdullah ibn al-Hakim accomplir la prière de la matinée, dhuha. Et chaque fois qu'il accomplissait deux unités de prière, il accomplissait aussi deux nations. Alors un proche l'interrogea à ce sujet. Pourquoi tu fais ça? Il répond, je me prosterne par reconnaissance vis-à-vis d'Allah de m'avoir accordé d'accomplir deux unités de prière. Naam. Même si Rasoul Islam n'a pas fait cela, naam. Et cette personne veut dire que tout bienfait qui vient, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout bienfait qui vient, on doit quoi envers ce bienfait. Et cette personne, le fait déjà que Allah ta'ala lui ait facilité de faire salat al-duha, il se prosternait pour yani, remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Car vous savez, salat al-duha ou toute autre chose, toute autre ibadah, toute autre adoration, personne ne peut la faire si ce n'est pas que Allah subhanahu wa ta'ala yani, nous la facilite. Naam. Si Allah ta'ala ne te facilite pas une chose, surtout une adoration, jamais tu pourras la faire. Donc même pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire salat al-duha, peut-être pour faire peut-être pour jeûner, peut-être tu dois toujours dire ya Rabbi de m'avoir aidé, sinon ya Rabbi, si vous m'avez laissé à ma propre personne, je me connais très bien, je suis très paresseux et je n'aurais pas fait telle et telle adoration. Alhamdulillah ya Rabbi, alhamdulillah, louange à Allah. Naam. Ambassa rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Muharib ibn Dithar était un voisin proche. Muharib ibn Dithar était un voisin proche. Et je l'ai entendu certaines nuits dire, qu'est-ce qu'il a dit? Je l'ai entendu dire, je suis le petit, ya Allah, je suis le petit que tu as élevé, louange à toi. Je suis le faible que tu as renforcé, louange à toi. Je suis le pauvre que tu as enrichi, louange à toi. Je suis l'affamé que tu as repu, louange à toi. Je suis le nu que tu as vêtu, louange à toi. Seigneur, louange à toi d'une louange plus abondante que toute louange. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naam, normalement, on ne devrait pas s'arrêter toute la journée de quoi? De louer Allah subhanahu wa ta'ala. Tellement il a de bienfaits sur nous. Naam. Des bienfaits qu'on ne peut dénombrer. Naam. Mais quand le cœur, a'udhu billah, commence à devenir aveugle, on oublie les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, si on va demander, remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour les yeux, on doit le remercier. Pour nous avoir donné les mains, le nez, la bouche, les cheveux, les oreilles, les pieds, les mains. Et nous, si seulement... Yani, on devait remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits du corps, ça n'en finirait pas. Naam. Seulement, quand je marche, je dis alhamdoulilah ya Rabbi, alhamdoulilah pour les yeux, alhamdoulilah pour la ni'ma des enfants, alhamdoulilah pour la ni'ma de mes bras, alhamdoulilah pour la ni'ma de mes jambes, alhamdoulilah pour la ni'ma de mon ventre, et comme ça. Naam. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, donc, vous connaissez tous le hadith que je vais citer, c'est le hadith qu'on dit, « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fi ma yarwi an Rabbih, tabaraka wa ta'ala. » يا عبادي كلكم ضال إلا من فاستهدونكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمون يطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسون يكسوكم. C'est à peu près, naam, le sens de ce qu'a dit cette personne-là. Ya Allah, louange à toi, je suis que tu as élevé, je suis le pauvre que tu as enrichi, et comme ça. Naam, le prophète islam a dit, donc, il rapporte ça d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai seulement le témoin du cours, oh mes serviteurs, vous êtes tous égarés, excepté celui que je guide, demandez-moi la guider, je vous guiderai. Oh mes serviteurs, vous êtes tous affamés, excepté celui que je nourris, demandez-moi de la nourriture, je vous nourrirai. Oh mes serviteurs, vous êtes tous nus, excepté celui que j'ai vêtu, demandez-moi donc de vous vêtir, je vous habillerai. Subhanallah l'adhim. C'est pour ça que à chaque fois qu'on mange, on doit remercier Allah. Au début, à la fin. Quand on s'habille, il y a des douas. Naam. Quand on dort, il y a des douas. Tout ce qu'on fait est lié à des douas. Naam. Ça marche toujours ensemble. Naam. Toujours. À cause des grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Naam. Salih, le fils de Ahmed ibn Hanbal, rapporte. Il a dit, lorsque mon père, regardez comment était l'imam Ahmed, il a dit, lorsque mon père, c'est-à-dire l'imam Ahmed, Il a dit, lorsqu'il sortait le seau plein, parce qu'il allait dans un puits avec un bidon pour sortir de l'eau, il a dit, lorsqu'il sortait le seau plein, il disait, Alhamdulillah, louange Allah. Je lui dis, ô père, pourquoi agis-tu ainsi? Pourquoi tu dis Alhamdulillah? Alors, tout le monde peut faire descendre un bidon et le remplir d'eau et le ramener vers le haut. Il dit, ô fils, n'as-tu pas entendu Allah Ta'ala dire dans le Coran? Et il lui citait le verset sourate Al-Mulk. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Que dit le verset? Dis, que vous ensemble, que pensez? Si votre eau était absorbée au plus profond de la terre, qui donc vous apporterait de l'eau de source? Regardez l'imam Ahmed Rahimah, comment il pense. En voyant le seau rempli d'eau, il dit, Allah Ta'ala dit dans le Coran, si je veux cette eau-là, Naam, je la laisse pas monter vers le haut pour que vous puissiez la faire sortir de la terre, mais je la fais descendre vers le bas. Et alors, vous serez privés d'eau. Allah Ta'ala a voulu que cette eau qui se trouve dans les fonds de la terre monte vers le haut. S'il veut, il la fait descendre vers le bas. Jamais de la vie, on ne pourrait boire de l'eau. C'est pour ça qu'il a dit dans Sourate Al-Kahf, vous lisez tout Sourate Al-Kahf et vous connaissez le dit qu'il y a eu entre le mouchrik et le monothéiste. Lorsqu'il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, le mouhid a dit à l'autre, il lui a dit, قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا لن تستطيع له طلبا. نعم, c'est surtout ça le témoin du corps. Il lui a dit, entrant dans ton jardin, tu avais dit, le musulman dit au kafir, si tu avais dit telle est la volonté et la grâce d'Allah, puissance que par alors tu es moins pourvu que toi en bienfait en enfant. Ensuite il a dit, c'est ça le témoin du corps, il lui a dit, Seigneur, bientôt quelque chose de meilleur que ton jardin. Ou alors qu'il envoie sur ce dernier sa cité. Ou alors que son sol devienne glissant. Naam. Et il a dit, ou, voilà le témoin, ou alors que son eau tarisse, de sorte que tu ne puisses plus la retrouver. Naam. Il lui a dit, n'oublie pas ça. Alors, peut quoi? Tarir, du verbe tarir. Il peut tarir ton eau, c'est-à-dire l'envoyer vers le plus. Alors, de façon à ce que tu ne puisses plus la retrouver. Naam. Et bien sûr, quand il a fait des doigts sur lui, Allah Ta'ala a exaucé ses doigts, et sa récolte fut détruite. Et il se mit alors à se tordre les deux mains, à cause de ce qu'il y avait dépensé. Cependant, il était complètement ravagé, et il disait, que je souhaite n'avoir personne à mon Seigneur. Ah, si je n'avais associé personne à mon Seigneur, ah. Mais c'est trop tard, Naam, c'est trop tard. Oui. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Seulement, je vais ajouter certaines choses, Inch'Allah Ta'ala, qui ont un rapport avec le choc ici. Regardez par exemple ce verset. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. Naam. Pourquoi Allah vous infligez-vous si vous êtes reconnaissant croyant? Allah est reconnaissant et omniscient. Allah va vous donner un châtiment pour la personne qui est reconnaissante et en même temps croyante. Allah subhanahu wa ta'ala, yani, ne veut pas faire, ni faire du mal aux gens. Pourquoi t'y? Si quoi? Si on est reconnaissant. Ce qui veut dire, si quelqu'un veut échapper du châtiment d'Allah, il doit faire deux choses. Être reconnaissant et croyant. Être reconnaissant ne suffit pas. Tu es reconnaissant et tu reconnais que cette eau est bonne, ce pain est bon, mais tu n'es pas croyant. Ça ne sert à rien. Et maintenant, tu es croyant, mais ne reconnais pas la ni'ma d'Allah. Ça ne sert à rien. Il faut deux choses. Être reconnaissant et croyant, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Bon, ce verset, on l'a vu. Maintenant, on va ajouter, inshallah ta'ala, d'autres choses. Une seconde. Regardez ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mu'ad ibn Jabal, rahimahullah, a dit que anna rasulullah, alayhi wa sallam, akhada biyadihi wa qala, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk, inni la uhibbuk. Faqala, usayka ya Mu'ad, anna fi duburi kulli salat, taqul, Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Sahih? Comme a dit Sheikh Al-Albani rahimahullah dans Sahih ibn Hibban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Mu'ad, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, me prit un jour par ma main et me dit, ô Mu'ad, par Allah que je t'aime, deux fois, par Allah que je t'aime, je te conseille alors de ne jamais oublier de dire à la fin de chaque salat, ô Allah, aide-moi à t'invoquer, à te remercier et à bien t'adorer. Allahu Akbar. Regardez ce grand statut, ce haut statut qu'a nous. Le prophète Islam l'a pris par sa main. Le prophète Islam te prend par sa main chérie, sa belle main, il te prend et il te dit deux fois, X, il y a X, je jure par Allah que je t'aime. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est sûr. Ce n'est pas. Vous voyez le statut des Sahaba que les que insultent, les shayatins des Iraniens insultent et disent ce sont des kofars. Il te dit Mu'ad c'est un kafir. Et toi, le shaytan, le souillé, toi qui es sous, non, toi, yani, tu dis Sahaba, mais ma'lish. Il y a un jour qui s'appelle le jour de la résurrection. Et ce jour-là, on va voir si c'est un ou la Yahoumitan qui est le meilleur ou la si c'est les Sahaba radiallahu ta'ala. Deux fois, je jure là que je t'aime. Ensuite, je t'aime, l'amour pour Allah, la preuve. Quand il l'a aimé, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a montré quelque chose dans son. Il a dit, je te conseille, Naam, je te conseille, quoi? Je te conseille de ne jamais oublier chaque salat. Ya Allah, aide-moi à t'invoquer. C'est pas je vais dire à quelqu'un, je t'aime, Naam. Ensuite, 5 minutes après, je lui dis, est-ce que tu peux me donner naissance? Est-ce que tu peux me prêter ta voiture? C'est cela. Ça, c'est de l'amour du mensonge. C'est pas pour Allah. Le prophète Hassan, il te dit je t'aime. Ensuite, il te montre quelque chose. Il te rentre au paradis. Amour. Le vrai amour pour Allah. Ce n'est pas yani, des couvertures. Je t'aime par Allah. Je t'aime pour Allah. Juste te dis cette phrase pour après te demander de m'aider là. Nous sommes vraiment très loin dans l'amour d'Allah. Naam, l'amour sincère. Donc, je te conseille de dire après chaque salat. Et bien sûr, nous aussi, on doit dire ça après chaque salat. Ya Allah, aide-moi à t'invoquer. J'ai dit tout à l'heure, si Allah ne t'aide pas, tu ne peux rien faire. Même pour l'invoquer, lui, Allah Ta'ala, l'invoquer, tu ne peux pas s'il ne t'aide pas. Ya Allah, aide-moi à t'invoquer. Je suis faible. Il y a le shaitan avec moi. Il y a les fitnas. Il y a ma foi qui est très faible. Naam. Il y a le djahl, l'ignorance que j'ai. Il y a la paresse. Il y a les amis qui veulent me détourner. Ya Allah, aide-moi à t'invoquer, sinon je ne peux pas. Aide-moi à te remercier. Non, la personne est ingrate. Je suis ingrat, Ya Allah. Je ne remercie pas. Aide-moi pour que je te remercie. Et aide-moi bien t'adorer, Ya Allah. Aide-moi. C'est Allah Ta'ala qui aide. Tout bienfait qui vient, vient de lui. Même dans les adorations. Subhanallah al-Azim. C'est lui qui t'a demandé de l'adorer. Mais c'est lui qui aide pour que tu l'adores. C'est lui qui aide pour que tu rentres au paradis. S'il ne t'aide pas, tu ne l'adores pas et par conséquent, tu ne rentres pas au paradis. Subhanallah al-Azim. Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète alayhi salam, et son gendre, qu'est-ce qu'il a dit? D'après Ali radiallahu ta'ala anhu, que quand il sortait des toilettes, il mettait sa main sur son ventre et disait, quel grand bien les gens savaient le remercier. Naam. Subhanallah al-Azim. Ça se trouve dans le livre de Ibn Abi Dunya, tome 1, numéro 1. Tome 1, Qu'est-ce qu'il disait lorsqu'il sortait des toilettes? Il mettait sa main sur son ventre et disait, bien fait, c'est-à-dire d'avoir fait sortir les choses dans les toilettes. Ah, si seul savait remercier ce bienfait. Naam. Imaginez qu'une personne, soyez qu'elle puisse rien comme ça, une semaine, 10 jours, qu'est-ce qui va lui arriver? Il ne pas uriner, jour, 4 jours, une semaine, qu'est-ce que ça va lui arriver? Donc même le fait de se débarrasser de ces choses-là, c'est vraiment une grande ni'ma. C'est vraiment un grand bienfait. C'est pour ça qu'on raconte. On raconte qu'une fois, un roi qui était musulman, qui était, mashallah, aimait le dîn, a demandé à un savant de lui faire une exhortation, de lui faire un rappel. C'est comme ça qu'ils étaient autrefois, les gouverneurs. C'est pour ça qu'il y avait toujours la baraka. Il n'y avait pas les grands péchés qu'on voit aujourd'hui, les crimes odieux. Non, parce que les gouverneurs étaient, mashallah, ils aimaient le dîn. Ils rapprochaient d'eux les savants, leur demandaient de leur faire des rappels, et comme ça. Donc, ce roi a demandé à quelqu'un, un savant, il lui a dit, fais-moi une exhortation. Le savant lui a dit, est-ce que vous m'entendez? Il lui a dit, et ce roi était très riche, bien sûr, la plupart du temps, il lui a dit, si jamais, il a dit au roi, si vous tombiez, il y en a dans une grande constipation, et que vous ne puissiez pas faire les grands besoins. Non. Combien vous donneriez pour le remède et la solution et la guérison? Il a dit, je donnerai de mon royaume. D'accord. Il lui a dit, dites-moi maintenant, si jamais un jour, vous ne pouviez plus uriner, combien donneriez-vous pour que vous soyez guéri? Il a dit, je donnerai la moitié de mon royaume. Alors le savant lui a dit, quel méprisable royaume alors. Un royaume qui coûte seulement quoi? Yani, qui est en contrepartie de quoi? D'aller aux toilettes pour faire les grands besoins ou alors d'aller aux toilettes pour uriner. Car pour uriner seulement, vous avez dit, je donne la moitié de mon royaume. Et pour faire les grands besoins, vous avez dit, je donne la moitié de mon royaume. Donc votre royaume, en fait, est méprisable. Il ne coûte que quoi? Que urine et ce qui est en contrepartie d'aller faire les grands besoins. Subhanallah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala donne des bienfaits, quand Allah subhanahu wa ta'ala donne des bienfaits, il faut quoi? Si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala ne t'enlève pas les bienfaits, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit dans le verset tout à l'heure, il a dit, si vous me remerciez, alors je vous en ajoute. Ça veut dire, si tu ne remercies Allah, tu ne remercies pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que autrefois il disait, qayyidun ni'am bishukr. Qayyidun ni'am bishukr. C'est-à-dire que Allah ta'ala vous donne en le remerciant. Si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala préserve tes bienfaits, remercie-le. Et comme j'ai dit, ne pense pas ici à la grande vie. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala seulement pour les bienfaits, le bienfait de la vue, fait de lui, le bienfait de tes mains, de tes doigts, les ongles. Et comme ta'ala, préservé bi'idhnillahi ta'ala. Daoud alayhi salam a dit une fois, Ilahi, lo i kulli sha'ara minni lisanayn yusabbihanik al-layla wan-nahar ma qadaytu ni'matan min ni'amik. En rapport de Daoud alayhi salam, le prophète Daoud, qu'il a dit une fois, Ya Allah, si chaque cheveu de ma chevelure avait deux langues qui te glorifiaient nuit et jour, jamais ça n'égalerait un bienfait. T'es bien. Ya Allah, si chaque cheveu de ma chevelure avait deux langues, pas une langue, et que ces deux langues ne n'arrêtaient pas jour et nuit, Ya Allah, de te glorifier, jamais ça n'égalerait un seul bienfait de tes bienfaits. C'est marqué, que par exemple, il y a des gens, par exemple, qui étaient, par exemple, mécréants, ensuite, non musulmans, ensuite sont rentrés, par exemple, en islam. Naam. Et que malgré cela, il y a né des fois, leur cœur n'est pas raffermi et ils apostasient ou l'ayyadu billah. Moi, par exemple, j'en connais pas pour avoir entendu, pas personnellement, bien sûr, au moins deux sœurs qui étaient reconverties, machin, Allah, ceci, cela, et ensuite ont apostasie. Pourquoi? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait du tort? Il a laissé les autres qui se sont reconvertis et leur a ajouté, guidé sur guidé, et ces deux sœurs ou ces trois dont je parle qui ont apostasié, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, leur a fait du tort et les a éloignés d'eux, jamais de la vie. Tout simplement parce que celles-là, naam, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles n'ont pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grande ni'ma. Peut-être même qu'elles ont fait le contraire. C'est quoi de faire le contraire? C'est de faire le rappel et de dire, naam, si c'était pas moi, ceci et cela, yani c'est moi qui suis rentré dans cet islam et qui, yani, si c'était pas moi, l'islam n'aurait pas telle valeur et comme ça. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dit, yamunnuna alayka an aslamu, qul la tamunnu alayya islamakum, balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Ils te rappellent leur conversion à l'islam, comme si c'était une faveur de leur part. Dis, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire, une faveur en vous dirigeant vers la foi. Si toutefois, bien sûr, vous êtes véritable, naam. Donc, c'est toi, yani, c'est Allah Ta'ala qui t'a fait la faveur de ta. C'est pas toi, tu fais des rappels et tu dis, yani, que, yani, si c'était pas moi, ceci et cela. C'est tout au contraire. C'est une faveur dont Allah t'a comblé en te dirigeant vers la foi, si tu étais véridique. Toi qui étais mécréant il y a seulement quelques temps, maintenant Allah Ta'ala t'a ouvert ton cœur et ta poitrine vers l'islam. Il t'a comblé de ce bienfait. C'est lui qui t'a fait la faveur. C'est pas toi qui va faire le rappel. Mais c'est Allah Ta'ala qui te fait la Le voulu, il t'aurait laissé dans les ténèbres pour mourir dans les ténèbres et aller dans les ténèbres de l'enfer éternellement. Mais Allah Ta'ala t'a guidé. Ça s'applique aux reconvertis, ça s'applique à ceux qui étaient musulmans et qui étaient loin, musulmans de souche, mais qui n'étaient, il n'y avait pas beaucoup de. Mais Allah Ta'ala, il les a guidés. Maintenant, ils commencent à appliquer, mashallah. Naam. Appliqué à 80%, 90%, mashallah, naam. Pour garder ces ni'am, pour garder ces bienfaits, et pour que ces bienfaits ne partent pas, naam, qu'est-ce qu'on devrait faire aussi? Le prophète, alayhi sallam, a dit, « Ida ahadukum ila man fuddila alayhi min al-mali wal-khalq, falyandhur ila man huwa asfal minhu. » Qala Cheikh al-Albani, sahih, 808. Dans Sahih al-Jama. Pour que Allah Ta'ala te préserve des bienfaits, par exemple, regarde ce hadith. Le prophète a dit, si quelqu'un de vous regarde celui qui a été plus favorisé que lui en bien et dans le corps, alors qu'il regarde celui qui est en, vous ne mépriseriez pas les bienfaits d'Allah. Si quelqu'un de vous regarde celui qui est plus favorisé que lui, en bien et dans le corps aussi. Alors, n'oublie pas de regarder celui qui est en dessous de toi. Ainsi, tu verras que tu as été favorisé par rapport à lui. Naam. Il ne faut jamais, dans la dunya, regarder quelqu'un qui est plus favorisé que lui. Sinon, ton cœur va toujours demander davantage. Si toi, tu as un deux pièces et lui, il a un cinq pièces, un appartement. Tu vas dire pourquoi lui il en a cinq et moi deux. Pourquoi lui il a telle voiture et moi j'ai la moindre. Pourquoi lui il a 600 euros par mois et moi seulement 200. Pourquoi lui, il a quatre enfants et moi seulement un? Et comme ça, jamais tu n'auras un cœur apaisé. Tu seras toujours, yani, avec un cœur ébranlé. Tu ne seras jamais heureux. Par contre, regarde à celui qui est au-dessous de toi. Dessous avec deux S. Regarde avec celui qui est en dessous de toi. Si toi, tu as seulement 200 euros par mois, regarde à celui. Et si toi, tu as seulement deux enfants, celle qui est stérile et ne donne jamais d'enfants, le couple, tel couple qui n'ont jamais d'enfants. Non. Si toi, tu as un œil que tu as perdu, regarde celui qui est aveugle, qui n'en a pas du tout. Et comme ça, quand tu regardes à celui qui est en dessous de toi, jamais tu ne vas mépriser les bienfaits d'Allah. Mais si tu regardes toujours celui qui est au-dessus de toi, alors jamais tu ne seras heureux. Ça, c'est le prophète Aslam qui te donne ce conseil. Tu dis, ne regarde pas celui qui est plus favorisé que toi. Regarde celui qui est en dessous de toi. Si tu veux voir et regarder celui qui est favorisé par rapport à toi, alors qui est favorisé par rapport au dîn, ça c'est bien. Naam, regarde les savants, regarde les frères qui sont mashallah, les sœurs qui sont mashallah dans le dîn, ça ne fait rien. Comme ça, pour que, yani, tu sois jaloux, cette jalousie est permise. Il y a deux choses seulement dans lesquelles c'est permis d'être jaloux. Donc c'est permis d'être jaloux dans le dîn, pour que tu sois comme cette personne, pour que tu fasses des efforts pour monter aussi, pour fortifier ta foi. Ça, c'est permis. Naam. عن حبيب بن عبيد الله قال ابتلى الله عبدا إلا كان لله عليه فيه نعمة نعمة هي النعمة أن لا يكون ابتلاه بأشد منه نعم regardez ce qu'a dit حبيب بن عبد الله رحمه الله dans le livre de Ibn Abi Dunya tome 1 page 1 il a dit Allah n'éprouve pas une personne par une épreuve sans qu'il n'y ait en cela le bienfait de ne pas avoir été éprouvé en plus dur. Allahu Akbar. Dans chaque épreuve, il y a une ni'ma. Il y a beaucoup de ni'ma. Mais il y a au moins une ni'ma. Laquelle? C'est le bienfait qu'Allah Ta'ala ne t'ait pas éprouvé en plus dur. Naam, en plus dur. Si tu tombes, tu te casses la main. C'est une épreuve. Ni'ma. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala t'a cassé un seul main et pas l'autre main et les pieds aussi. Un seul main. Subhanallah al-Azim. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Qaddar Allah te fait perdre un enfant. Il y a une grande ni'ma laquelle? De t'avoir laissé les autres, 4 ou 5. Il ne les a pas pris. Il t'a pris seulement un seul. C'est une grande ni'ma. Dans un accident, vous pouvez tous mourir. Mais il n'y a qu'un seul qui est mort. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah ta'ala aurait pu faire que nous mourions tous dans cet accident. Mais un seul est mort. Un seul membre de la famille qui était avec nous. Qaddar Allah, mais alhamdoulillah. Quand même, c'est une ni'ma. Et comme ça, dans chaque malheur qui t'arrive, dis-toi Allah Ta'ala, s'il avait voulu, il aurait donné plus dur, plus fort. Donc c'est une ni'ma que ça soit arrêté ici. Et tu dis alhamdoulillah ala kulli hal. Alhamdoulillah, alhamdoulillah ala kulli hal. J'arrête ici, inshallah, il vient d'appeler pour Salat al-Isha. Si tout ce que j'ai dit ici était juste, c'est de Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est faux, mon shaitan, subhanak Allahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilayk. Ta'ala, Salat al-Isha, pour faire les questions-réponses, on commence par celle, inshallah ta'ala, qui ont rapport avec le cours. Ensuite, inshallah ta'ala, les autres, bi idhnillah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Donc, question d'une sœur, cher, qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, j'aimerais savoir si par exemple demain je prends la décision de remercier Allah Azza wa Jal par un sujoud ou deux rak'at. Comme l'homme cité dans le Dars qui a fait les deux rak'at de Doha. En prenant cette décision dans la niya d'imiter cette personne, suis-je tombé dans la bid'a? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.
Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, en imitant quelqu'un qui est pieux, en général, on ne tombe pas dans la bida. Reste à savoir si ce pieux, en général, qu'on veut suivre, lui-même a suivi la sunna ou bien il s'est trompé. Dans le cas de la personne qu'on a citée, il a dit quand il a fait deux rak'at de duha, il s'est prosterné, deux prosternations pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris la prosternation du shukr. Et que c'est quoi? C'est une seule prosternation et pas deux. Une seule prosternation et pas deux. Donc ici, on ne va pas suivre cette personne, même si elle fait partie des salaf salaf, puisque la sunna, c'est la prosternation, de se prosterner une seule fois, yani, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala quand c'est quelque chose qui nous fait joie. Ou alors, si on veut carrément, yani, faire deux rak'at, deux unités, ce n'est pas interdit, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadhal.
Barakallahu fikoum, cher. Question d'un frère, d'une sœur, parfois. Ma question, assalamu alaikum, cher. Ma question est, comment faire pour avoir 100% confiance en Allah? Car même si dans mon cœur je me dis que je l'ai, je ne cesse de me lamenter sur ma chance. Même si je me dis, alhamdoulillah, il y a pire que moi, je me dis souvent, est-ce que je suis sincère dans mes actes? Est-ce que je suis aimé par Allah? Et comment faire pour éviter ces questions qui me perturbent? Qu'Allah vous fasse miséricorde.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Ce genre de questions, en principe, ça reste toujours avec la personne. Seulement, des fois ça s'oublie, des fois ça diminue, et des fois ça revient comme ça. El-Muhim, c'est quoi? El-Muhim, c'est plus la personne a de la science et connaît le Seigneur Azzawajal avec ses noms et ses attributs parfaits. Plus, yani, elle a tendance à l'aimer plus et à ne jamais se lamenter et dire, yani, ou alors penser de lui du mal. Ou dire par exemple, il m'a fait du mal, ou bien il a été injuste avec moi, ou là. Jamais, jamais, jamais de la vie, une personne croyante ne doit penser cette chose. La sœur, bien sûr, n'a pas dit qu'elle pensait cela. Mais elle dit que des fois, par exemple, elle se lamentait sur sa chance. Je lui dis, il n'y a pas de chance en islam. En islam, tout est écrit, a été écrit 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Allah Ta'ala l'a écrit. Il y a chance dans le sens où, yani, quand je me compare à une autre personne, par exemple, mon destin n'est pas comme son destin à elle. Ce que Allah Ta'ala lui a écrit, c'est mieux que moi. En subsistance, en risque, en ceci, elle a réussi à son examen, j'ai pas réussi. Tout ça, ce qu'on appelle nous chance, en fait, c'est pas chance. C'est pas hasard, c'est écrit 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Donc moi, je dois accepter et faire des doigts. Ça ne fait rien, je fais des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala m'en donne moi aussi. Naam, je fais des doigts. Les doigts, vous savez que ça peut faire changer la prédestination, comme dans le hadith authentique. Car des fois, Allah ta'ala a prédestiné quelque chose avec tes doigts. Il savait que tu allais faire des doigts. Alors il a prédestiné des choses. C'est pour ça, nous, on doit faire beaucoup de doigts et avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et essayer de combattre les waswas et le shaitan qui vient me dire que toi tu es malheureux, toi tu es ceci, toi cela. Naam. Alhamdulillah, je dis, alhamdulillah que, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen, alhamdulillah que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui notre Dieu. Alhamdulillah. Il a tout, yani, ce qu'il y a de plus parfait. Donc, puisque c'est lui qui détient le rizq, c'est lui qui a tout écrit. Donc je lui fais confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et je ne verrai bi'idhnillahi ta'ala que du bien. Naam. Tfadhal.
Donc j'ai voulu la question d'un frère, donc question d'ordre général. Salam alaikum wa rahmatullah shaykhana. Jazakumullah khayran pour ce cours bénéfique. On trouve au domicile de beaucoup de musulmans, et même dans les mosquées, un tableau regroupant les 99 noms d'Allah tiré du hadith rapporté par At-Tirmidhi. Cependant, Allahu a'lam, ce hadith est faible. Du moins la liste des 99 qui sont cités dans le hadith. Je parle de la liste qui finit par les noms Ar-Rashid et As-Sabr. Est-ce que vous confirmez que le hadith est faible? Et si oui, que devons-nous faire de ce type de tableau? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Je confirme que le hadith rapportée par Tirmidhi sur les 99 noms qu'on trouve partout, ou là, beaucoup, dans les mosquées, dans certains endroits, que ce hadith est daif, qu'il est faible. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on a, yani, si on a, c'est-à-dire si on peut changer dans la mosquée et dire à l'imam, par exemple, de l'enlever, s'il veut prendre des nasihas, mashallah, s'il ne veut pas, on lui dit seulement, on lui dit voilà, ce hadith est daif, et maintenant la responsabilité revient à lui. S'il veut l'enlever, alhamdoulillah, s'il ne l'enlève pas, et c'est lui qui va endosser Yom al-Qiyamah pour avoir appris aux gens des choses qui ne sont pas vraies, vu que le hadith est faible et qu'il comprend au moins 6, 7 ou 8 hadith, noms d'Allah qui ne sont pas des noms, qui ne sont pas en fait des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, donc, tafadhal inshallah.
Amchir, le frère dit, il y a des frères qui apprennent par cœur les 99 noms alors que le hadith est faible. Auront-ils une récompense? Tafadhal cher.
Ils ont, inshallah ta'ala, une récompense d'après leur niya parce qu'ils croyaient que le hadith était authentique. Mais je veux dire une chose plus importante. Le hadith, quand il a dit men ahsara, il ne veut pas dire les apprendre par cœur. C'est pas ça le sens du hadith. Mais il veut dire les connaître, les 99, et les appliquer. C'est ce qu'a voulu dire le hadith. Par exemple, quand j'apprends maintenant que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui Sami', parmi ses noms c'est Sami', l'audion. Entre parenthèses, je vous ai dit que, inshallah ta'ala, peut-être que le prochain livre sera sur les noms d'Allah. Al-Muhim, quand j'apprends que c'est lui l'audion, donc, je viens d'apprendre que Allah subhanahu wa ta'ala entend tout. Donc, quand j'ai appris qu'il entendait tout, donc je ne dois plus dire des mots, naam, qu'il va les entendre, ils ne sont pas bien. Je ne dois plus dire de gros mots. Ou alors faire la calomnie. Ou alors la médisance. Ou alors mentir. Ou alors parler de Allah Ta'ala en mal. Ou sur les sahaba en mal. Et comme ça. Pourquoi? Je viens d'apprendre que Allah Ta'ala entend tout. Donc je dois, yani, appliquer ce qu'il y a dans ce nom et les conséquences de ce nom. Voilà ce que ça veut dire ahsaha. Ce n'est pas les apprendre par cœur comme un perroquet et les contredire dans, yani, mon comportement. Voilà, inshallah ta'ala, tfadlal. Naam, tayyib, c'était juste pour ramener un petit bruit devant moi. Une seconde, je vais vous lire quelque chose d'important, une seconde. Je vais vous lire la liste des 99 noms que le frère a cités du hadith du Tirmidhi. Quels sont les noms qui ne sont pas des noms d'Allah dans le hadith du Tirmidhi? Une seconde, voilà. Comme il a dit lui, ça se termine par Rachid Sabour. Dans les 99 noms cités dans le hadith du Tirmidhi, que Allah Ta'ala avait 99 noms, voici les noms dans ce hadith qui ne sont pas des noms d'Allah Ta'ala. Si vous voulez les noter, hein, si vous voulez, Al-Khafid, Al-Rafi', Al-Mu'iz, Al-Mudhil, Al-Adl. Bon, Ibn al-Jazayr écrit, je répète, Al-Khafid, Al-Rafi', voilà, Al-Khafid, tu as écrit Al-Khafid, voilà, Al-Khafid, Al-Rafi', Al-Mu'iz. Mu'idh, tu as écrit le Mu'idh. Mu'iz avec Z. Mu'iz, voilà. Al-Mudhil. Al-Adl. Al-Adl. Écris l'Adl. Jazayri, est-ce que tu es là? Al-Adl. Naam. Al-Jalil. Très connu, hein. Les gens disent Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, parmi ces noms, Al-Jalil. Même beaucoup se font appeler Abdel Jalil. Alors que ce n'est pas un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhsi, écrit Al-Muhsi. Al-Mubdi. Al-Muhyi, Al-Mumit. Tout cela, Al-Muhyi, Zahmak, c'est un nom alors que ce n'est pas un nom. Et Al-Mumit, Al-Muhyi, celui qui ressuscite. Et Al-Mumit, celui qui prend les âmes. Al-Mumit, voilà. Al-Muhyi, Al-Mumit. Al-Wajid, Al-Wajid. Al-Majid, Al-Majid. Al-Wali, Al-Wali. Al-Muntaqim, Al-Muntaqim, le vengeur. A'udhu billah, Allah subhanahu wa ta'ala, le vengeur. A'udhu billah. Al-Muntaqim. D'où le jalal ou l'ikram. Là, là, Al-Muntaqim, avec un mot à la fin. Corrige, Al-Muntaqim. Voilà. D'où le jalal ou l'ikram. D'où le jalal ou l'ikram. المقسط الجامع 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 الناس ليوم لا ريب فيه الجامع المغني celui qui enrichit المغني المانع celui qui empêche المانع الدار celui qui fait mal الدار النافع celui qui fait du bien ou là qui est utile النافع النور la lumière الله نور السماوات والأرض c'est pour ça beaucoup beaucoup se font appeler عبد النور tu dis عبد النور النور الهادي celui qui guide الهادي celui qui guide البديع 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 il reste trois الباقي celui qui reste الباقي alors que Allah Ta'ala son vrai nom c'est quoi c'est هو الآخر le dernier ça c'est un nom mais pas الباقي الرشيد et صبور الرشيد et صبور eux aussi ce ne sont pas des noms d'Allah Subhanahu wa Azzawajal نعم الصبور فوالا ان شاء الله تعالى تفضل ان شاء الله تعالى pour une autre question
Donc, question suivante, question d'un frère, d'ordre général. Salam alaykoum, ahsan Allahu ilaykoum, Cheikhana. Ma mère voudrait savoir, pour les nawafil avant salat al-asr, doit-on les faire juste à l'entrée de l'heure du asr, ou bien peut-on les faire, pouvons-nous les faire 20 ou 30 minutes après l'entrée de l'heure du asr? Car elle doute par rapport au hadith qui dit il n'y a pas de salat entre l'asr et le maghrib. Et cher, pouvez-vous faire un cours où vous nous expliquerez les doigts du matin et du soir et les autres doigts connus, car la traduction en français n'est pas compréhensible des fois. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Par contre, le frère n'a pas indiqué s'il voulait une réponse en français ou en arabe. Tfadal cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Pour un cours sur les doigts, je vous ai dit aussi que je pense à un livre que j'ai ici. Un livre, mashallah, que quelqu'un m'a envoyé de chez vous, barakallahu fih, qui est spécialement sur les doigts. Inch'Allah ta'ala, si on va le faire, donc vous allez trouver, inch'Allah ta'ala, tout ce qui a rapport, inch'Allah ta'ala, avec les doigts. Tayyib. Pour les nafila, avant Salat Asr, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, Naam, Rahimallahu mra'an, صلى أربعا قبل العصر الباني دي أوتنتيك رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر puis الله سبحانه وتعالى englobé dans sa miséricorde une personne qui a prié 4 ركعات avant العصر ça c'est un hadith mashallah de temps en temps quand tu te sens avec des problèmes avec ceci avec cela tu te dis j'ai besoin que Allah Ta'ala fasse descendre sa miséricorde sur moi alors rappelle-toi le hadith Puisse Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre sa miséricorde sur une personne qui fait 4 rak'at avant l'asr. Donc avant de prier salat al-asr, de temps en temps, prie 4 rak'at bi'idhnillahi ta'ala, 2 et 2. deux et deux, et si tu les joins à la fois, c'est possible, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, il n'y a pas de problème pour les quatre avant l'asr. La personne qui dit, quand est-ce que je dis avant l'asr, ça veut dire quand? Quand c'est le moment de salat l'asr, pas avant. C'est-à-dire, j'ai rendu le adhan que c'est salat l'asr. Là, je prie 4, et quand je termine, je prie salat l'asr. C'est possible que ça soit, par exemple, 20 minutes après le adhan, ou 30 minutes. Mouhim. Avant de prier salat l'asr, je fais quoi? Je fais ces 4 rak'at. La personne a eu un ishkal, un problème, car elle dit qu'il y a un hadith qui dit qu'il n'y a pas de salat après l'asr. Je lui dis, elle dit ici une seconde, un hadith qu'il n'y a pas de salat entre l'asr et le maghreb. Il n'y a pas de salat entre l'asr et le maghreb. Le hadith n'a pas dit comme ça. Mais il a dit, il n'y a pas de salat après l'asr, jusqu'au coucher du soleil. La salat ba'd al-asr, jusqu'au coucher du soleil. Et nous, on va prier avant l'asr. Et on n'a pas prié après. Bi-idhnillahi ta'ala. Et malgré cela, le hadith qui dit qu'il n'y a pas de prière après l'asr, il parle des prières yani, qui n'ont pas de raison, qui n'ont pas de sabab. Mais les prières qui ont des sabab, on peut les faire, comme par exemple la prière de la rentrée de la mosquée, par exemple. Inch'Allah ta'ala. Naam. Tfadal.
Barakallahu fikoum, cher. Je vous ai envoyé deux questions encore, car les deux questions se rejoignent. Question d'une sœur, la première. Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya cher. Hafidhakoum Allah. J'aimerais, inshallah, si possible, que vous m'éclaircissiez sur la différence entre al-shukr et al-hamd. Jazakoum Allah wa khayra. Et la question de la sœur, la deuxième. Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelle est la différence entre louer Allah et remercier Allah? Comment peut-on remercier Allah? Barakallahu fikum shaykhana. Farakum Allah.
Naam, barakallahu fikum pour avoir écrit les noms qui ne sont pas des noms d'Allah en français. Les avoir écrits aussi en arabe. Naam, ben. Le hadith badi al-mani al-mouni, je vérifie. Muntaqim al-muqsit al-jami' al-majid al-lalil al-hafid. حافظ الرافع المعز المدينة. طيب واسمك اخو ابو زكريا est-ce que tu es d'accord avec moi que les deux questions que tu viens de poser c'est-à-dire sont une seule les deux ont demandé c'est quoi la réponse la différence entre louer c'est-à-dire alhamdulillah et remercier tashkur naam donc la différence entre louer Allah subhanahu wa ta'ala et le remercier louer, c'est-à-dire alhamdulillah, et tushkur, c'est le remercier. Quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux se situe dans les deux points suivants, les trois points. Naam, regardez. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Attendez une seconde. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est une seconde pour ne pas me tromper. Bon, on a dit la différence entre louer et remercier. Louer, Allah subhanahu wa ta'ala, je le loue, c'est par la langue. Hein? Je dis alhamdulillah. Je dis alhamdulillah. Ça s'arrête là. Mais remercier Allah subhanahu wa ta'ala, je peux le remercier par la langue et dire par exemple, ya Allah, je vous remercie pour ceci et cela. Et je peux le remercier aussi par le cœur, dans mon cœur, je le remercie, et je peux le remercier aussi en faisant des choses, en donnant une aumône. On dit, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. En priant deux rak'at, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le louer, ça ne fait que par la langue. Vous comprenez? Par la langue, je dis, alhamdulillah. Mais remercier, ça se fait par le cœur, ça se fait par la langue, et ça se fait aussi par les actes. Ça, c'est la première différence. Et la deuxième différence, inshallah ta'ala, entre les deux, c'est que je ne remercie Allah subhanahu wa ta'ala que dans les choses qui sont bien et les bienfaits. Je ne remercie jamais Allah subhanahu wa ta'ala dans un malheur. Vous êtes d'accord avec moi? Alors que le louer, ça peut se faire dans les bienfaits et dans les malheurs. S'il me donne un bienfait, que je dis Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatim salihat. S'il me donne un malheur, que je dis Alhamdulillah, ala kulli hal. Alhamdulillah, dans tous les cas. Alhamdulillah, dans toutes les circonstances. Alhamdulillah, ala kulli hal. Alors que remercier, je ne le remercie que dans les bienfaits. Je ne peux pas, il me donne un malheur, je lui dis, je vous remercie Allah pour ce malheur. Mais je dis, Alhamdulillah, ala kulli hal. Voilà la différence entre les deux. C'est dans ces deux points, inshallah ta'ala. Si vous n'avez pas compris, je recommence, inshallah ta'ala. Tfadhal.
Question suivante, question d'une sœur, d'ordre général. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakum Allah, cher, voici ma question. Depuis quelque temps en France, les musulmans sont confrontés à des ambiguïtés par rapport à la viande halal. Je m'explique. Certaines personnes diffusent des informations en disant que telle ou telle certification, ceux qui vendent de la viande, n'est en fait pas halal. Or que certains de ces certificats sont émis par des musulmans, comme c'est le cas par exemple de la certification de la mosquée de Lyon. Ces viandes sont ensuite commercialisées dans des supermarchés. Mais comme ce sont des musulmans qui certifient la viande, devons-nous nous en tenir à la parole de Cheikh Al-Fawzan, dans laquelle il dit que lorsque c'est un musulman qui nous nourrit, il n'est pas permis de demander si c'est halal, ou devons-nous éviter de consommer cette viande comme elle est commercialisée par des kuffars? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. J'aimerais juste apporter, me dire quelque chose là-dessus, cher. Je ne comprends pas pourquoi des musulmans, donc surtout en France, s'embêtent à aller chercher de la viande halal chez des kuffars, alors que nous avons des, alhamdoulilah, nous avons des boucheries halal qui sont tenues par des frères musulmans. Donc je ne comprends pas pourquoi on s'embête à aller au supermarché, au champ, je ne sais où, acheter de la viande alors qu'on a des frères musulmans qui viennent de la viande halal. Tfadal, cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Naam, en fait, c'est à peu près 90% la réponse à cette sœur. C'est ce que tu viens de dire, à peu près 80% la réponse. Reste 20%. Regardez, quand un musulman, c'est lui qui yani, dit, comme elle dit ici, yani, j'atteste que cette viande a été égorgée, etc. Premièrement, on va voir de quel pays elle vient. Si elle vient d'un pays, naam, comme la Russie, comme la Yougoslavie, là, il y a un pays où sont des athées, naam, des chouyouïoun, des communistes qui ne croient ni en Allah ni en rien, même s'il y a un musulman qui va me dire que yani, ça a été égorgé, etc., c'est difficile à le croire. Car ce musulman, c'est qui? Ce musulman, c'est pas Cheikh Ibn Uthaymeen ou la Cheikh Fawzan qui vient de me le dire. C'est pas lui qui m'a dit, yani, voilà, je te confirme. Ça, c'est un simple commerçant. Et les commerçants, le prophète Hassan a dit en eux, il a dit, Inna tujjar humul fujjar, illa ma rahim arbi. Albani a dit authentique. Inna tujjar humul fujjar. Il a dit, les commerçants, ce sont eux les pervers. Comme ça, il a dit, alayhi salam. Il a dit, sauf ceux que Allah Ta'ala a acceptés. Le commerçant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut vendre. Regardez, je vais vous donner la preuve que quand c'est un commerçant comme ça, qu'il ne faut pas, yani, faut pas faire vraiment confiance, sauf si lui, c'est lui qui a envoyé quelqu'un de confiance là-bas pour égorger, etc. Regardez et écoutez ce que je vais vous dire. J'ai un ami ici, qui est mashallah, yani, fait partie des salafs, ceci, la barbe, ceci, ceci. Ah, mais ceci, mashallah, j'ai un ami intime. Il peut pas mentir, il peut pas me mentir. Il m'a dit, moi, autrefois, quand j'ai commencé tout juste le din, j'étais pas yani, à 100%, il m'a dit, on m'a envoyé d'ici d'Algérie vers un pays, mais maintenant j'ai oublié. Je pense qu'il m'a dit la Hongrie ou quelque chose comme ça. Il m'a dit, on m'a envoyé spécialement dans une délégation pour vérifier là-bas. Il y a la viande, etc., si elle est égorgée d'après les principes islamiques, etc. Il m'a dit, quand j'ai été là-bas, dans ce pays là-bas, il m'a dit, j'allais à la société Hadé, où il y a la viande, etc., pour vérifier. Il m'a dit, Je restais de 8h du matin jusqu'à 5h du soir. Car le travail dit comme ça, les règles disent comme ça. Il m'a dit, plusieurs fois on est venu me dire, yani m'inviter à des soirées, me proposer de l'alcool, me proposer. Il dit non, moi non, non, ça c'est pas permis dans notre religion, ceci, cela. Al-Muhim, il a dit, j'ai fait mon travail de 8h à 5h du soir, vraiment comme il se faisait. Confirmez-moi que vous m'entendez, musulman. Alhamdoulillah. Donc ça, c'est une expérience pour que vous sachiez. Il m'a dit, quand j'ai terminé mon travail, le jour où je suis allé à l'aéroport, il m'a dit, j'étais dans la chaîne comme ça, pour enregistrer mes bagages, quand quelqu'un m'a tiré de l'épaule, derrière moi. Il m'a dit, je suis retourné, j'ai trouvé le chef de l'usine, là, l'usine où je travaillais de 8h à 5h, le chef. Il m'a dit, il m'a tiré de l'épaule. Il m'a dit, comment ça va? Il m'a dit, je veux te dire une chose. Je lui ai dit, tfadl. Il m'a dit, jamais de ma vie. Il lui a dit comme ça. Il lui a dit, jamais de ma vie. Je n'ai vu quelqu'un sérieux comme toi. Je te remercie pour ce que tu as fait et ceci. Il lui a dit, jamais de la vie. On ne m'a envoyé, parce que chaque 3 mois, là, on lui envoie quelqu'un ou deux. Jamais de ma vie, quelqu'un n'est venu envoyé par vous de l'Algérie qui a fait son travail. Il reste ici 1 heure ou 2 et il va dans les discothèques danser, boire de l'alcool et à la fin il signe. Il dit voilà que tout est bien, ça a été égorgé à 100%, c'est halal à 200%. Il a dit jamais ils ne font son travail. Il a dit tu m'as étonné, je te remercie, vraiment yani, tu étais à la hauteur. Il a dit tous les autres qui sont venus, jamais ils ne faisaient leur travail. Il vient à la fin, il signe et nous, on lui donne l'alcool, les femmes, etc. Il vient signer à la fin, il dit que tout est normal, alors que rien n'est normal ni égorgé. Donc je dis à cette personne, ya khoya, moi je fais pas confiance, tu nous dis que la mosquée. Moi je vous dis, donc je vous dis que, comme a dit l'akh muslim, s'il y a là-bas des musulmans qui se parlent là, égorgent, même si je dois faire quelques kilomètres pour sortir de ma ville et aller acheter. Ça rentre fisabilillah. C'est parce que j'ai peur d'Allah Ta'ala que je vais à quelques kilomètres acheter et j'achète et je mets dans le congélateur. Ça peut tenir 1 mois, 2 mois la viande. Je la laisse dans le congélateur et de temps en temps j'en prends pour ne pas aller toujours acheter si c'est loin. Une sœur nous a dit que la mosquée de Lyon rend halal l'étourdissement par électrocution. Je dis ce qu'ont dit les savants, bien sûr. Une question pareille a été posée à un savant, je crois que c'est Cheikh Fawzan ou un des grands mohim, il a dit, si l'étourdissement par électrocution, c'est juste pour affaiblir l'animal. Ensuite, quand il est étourdi, mais il est toujours vivant, je l'égorge, il a dit c'est possible. Mais si étourdissement par électrocution, ça veut dire c'est ça l'égorgement. Je l'étourdis, il est électrocuté. Je dis là, allez, c'est halal, manger. Ou alors il meurt, je l'étourdis par électrocution, il meurt et je vais l'égorger. Ensuite, tout ça c'est interdit. Donc il faut voir si l'étourdissement c'est une introduction. Je l'étourdis par l'électricité, il tombe, il commence à comment dire, je sais pas comment qu'on dit, à danser. Je le prends et je l'égorge, c'est possible. Mais si par contre il tombe direct mort, c'est pas permis bi'idhnillahi ta'ala. Tfadal.
Barakallahu fikoum, cheikh. Et en fait, avant de vous poser une autre question, on reçoit beaucoup de questions, enfin plutôt d'affirmations de personnes qui disent que parmi les noms que vous avez cités, d'Allah Azzawajal, ils ont entendu d'autres savants dire que c'est des noms d'Allah, par exemple Nour. Ou comme j'ai reçu ici, je cherche, un frère dit, le nom d'Al-Majid fait partie des noms d'Allah. Et il a cité comme dalil verset 15 de sourate Al-Buruj, Zul Arsh Al-Majid. Donc, cher, est-ce que vous pouvez nous éclaircir par rapport à ça? Barakallahu fikoum.
Naam, moi je vous ai donné, inshallah ta'ala, ce dont je suis convaincu, plus juste billah ta'ala. Sinon, Nour. Beaucoup de savants, bien sûr, ont divergé sur Nour. Ibn Taymiyyah dit que ça fait partie des noms d'Allah. Ibn al-Qayyim dit que ça fait partie des noms d'Allah, al-Nur. Vous avez compris? Al-Harras, il dit que ça fait partie des noms d'Allah. Et moi, je suis de ceux qui disent qu'il ne fait pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala pour un livre que j'ai ici et qui a c'est vraiment approfondi dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et a tiré en conclusion que Nour, ce n'est pas un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, je vous donne un dalil que Nour, ça ne fait pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith, il a dit « Hijabuhu Nour ». Il a dit quoi? Son voile, c'est la lumière. Quand je dis que son voile, c'est la lumière, ça veut dire que lui, c'est autre chose. Car je fais la différence entre son voile et lui. Ça, je fais la différence. Quand je parle d'une femme, je dis son hijab est bleu. Donc, c'est pas elle qui est bleue, c'est son hijab. Vous avez compris? Il a dit son voile, c'est la lumière. Tayyib. Allah Ta'ala, quand il dit dans le Coran, Allahu nuru samawati wal ard. Allahu nuru samawati wal ard. Il a dit, il est la lumière des cieux de la terre. Nour ici veut dire munawwir, veut dire l'illuminant. Pourquoi? Pourquoi? Car un peu plus bas, il a dit, mathalu nurihi. Il a dit, l'exemple de sa lumière. Regardez, mathalu nurihi, sa lumière. Sa lumière, si on va analyser en français, on dit complément du nom. Comme je dis, la clé de la voiture. Ça veut dire, il y a la voiture, il y a une clé. La clé, c'est pas la voiture, c'est pas la clé. Allah Ta'ala dit, sa lumière. Sa lumière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la lumière d'Allah. Donc, il y a Allah et il y a la lumière. La lumière, c'est pas Allah, Allah, c'est pas la lumière. Donc, c'est pas son nom. Ça, c'est, Inch'Allah Ta'ala, l'avis le plus juste. Mais si quelqu'un prend de l'avis que c'est son nom, ma'alish, s'il a été convaincu par les dalils, ma'alish, c'est pas interdit. Quand il a cité le verset, d'où l'arche al-Majid, d'où l'arche al-Majid, pour que ça soit vraiment son nom, il faut prouver que le Majid ici, il parle d'Allah. Car sinon, je vais te dire, il parle de l'arche. Il a parlé du trône. Il a dit que son trône était Majid. Et pas de lui. Vous avez compris? Naam. Tfadl, Inch'Allah Ta'ala, pour une autre question.
Barakallahu fikoum, Cheikh. Désolé, c'est parce que ça préoccupait beaucoup de frères et sœurs. On a reçu beaucoup de messages sur ça. C'est pour ça que je me suis permis de vous poser la question. Et une sœur dit à la fois, mais Cheikh n'a pas donné la référence du livre pour le hadith faible sur les 27 noms. Donc, est-ce que vous pourriez me donner la référence? Barakallahu fikoum, cher. Et en même temps, je vous pose la question concernant le cours d'un frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah nous accorde à tous des bienfaits dont nous pourrions être reconnaissants. J'aimerais savoir si être reconnaissant envers Allah pour ses bienfaits, avoir fait de nous des musulmans par exemple, et demander pardon pour nos péchés ou erreurs, car on a souvent du mal à calmer notre colère, notre parole et la médisance. Est-ce que cela est compatible? Donc le fait d'être reconnaissant envers Allah pour ses bienfaits et le fait de demander pardon, est-ce que c'est compatible? Barakallahu fikoum, cher.
Al-Jazairi, Abu Zakaria, est-ce que je comprends que la sœur cherche, yani, où il a été dit que le hadith est daif du Tirmidhi? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça ce qu'elle cherche? Exactement. Alors, attends une seconde, inshallah ta'ala, que je lui donne le hadith bi'idhnillah ta'ala. Voilà, inshallah, le hadith. Dites-moi, s'affiche d'abord, inshallah. S'il s'affiche, dites-le moi, inshallah ta'ala. Voilà les noms. À la fin, c'est écrit. Lisez la dernière phrase, l'avant-dernière. Da'if, faible. Bi'asma. Da'if avec ses noms. Voir une mishkat de Sheikh Al-Albani, numéro 2288. Et voir Daif Al-Jama' Sarir, Sheikh Al-Albani, 1945. Hadith numéro 1945. Et c'est le hadith qu'on a cité tout à l'heure qui se termine par, regardez pas, il se termine Al-Rashid Al-Sabour. Et un peu plus haut que Sabour, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Nour. Vous voyez Nour à l'intérieur. تفضل إن شاء الله تعالى pour une autre question.
ابن محمد تفضل استطوى أخي.
Enfin, moi, je viens juste de prendre le micro. Et donc, Cheikh, je vous repose la question alors. Enfin. Donc, est-il compatible, Cheikh, d'être reconnaissant envers Allah pour ses bienfaits, comme le fait d'être musulman, et demande, enfin, non, et demande, désolé, et demander pardon pour nos péchés ou nos, et nos erreurs. Barakallahu fikoum, Cheikh.
Pour être franc, je dirais que je n'ai la question. Si Inch'Allah Ta'ala, tu peux m'expliquer, tfadhal.
En fait, moi non plus, Cheikh, je n'avais pas compris la question et je pensais que vous alliez la comprendre. Donc, en attendant, je vais vous poser une autre question, Inch'Allah. Et je vous la transmets, Binillah. Question d'une sœur qui dit Assalamu alaikum, Cheikh. Qu'Allah vous récompense par rapport, qu'Allah vous récompense. Par rapport au athar d'un pieux prédécesseur qui a dit perdre la rétribution liée au malheur est pire que le malheur lui-même. Pouvez-vous m'expliquer le sens dedans, barakallahu fikum? Peut-être l'avez-vous expliqué, mais je n'étais pas là. Barakallahu fikum, Cheikh.
Je crois, Allah ta'ala alam, avoir compris la question de la perte. Naam. Si c'était compatible d'un côté de reconnaître et yani, remercier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'autre de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour nos fautes. Si c'est pas comme j'ai compris, qu'elle me recorrige. Je dis, Inch'Allah ta'ala, na'am, c'est compatible. D'un côté, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grande ni'ma de l'islam, ce grand bienfait de m'avoir sorti et sauvé, na'am, de l'enfer. Et en même temps, yani, je demande pardon pour mes fautes que je fais, car je dois faire des fautes. Dans le hadith authentique, le prophète alayhi a dit, si vous ne faisiez pas de fautes, alors Allah Ta'ala vous aurait pris et exterminé, et aurait fait venir d'autres peuples qui feraient des fautes et demanderaient pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah al-Azim. Cheikh al-Albani a dit authentique. Ensuite, regardez ce verset, Inch'Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Comment qu'ils ont traduit ça en français, Allahu alam, laissez-moi voir. Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, se rappellent du châtiment d'Allah et les voilà devenus clairvoyants. Donc regardez, ceux qui pratiquent la piété, c'est-à-dire les pieux, lorsque quelque chose du diable les touche, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rappellent le châtiment d'Allah et les voilà devenus clairvoyants et reviennent vers Allah Ta'ala en lui demandant pardon. Donc c'est compatible entre le fait que je sois pieux, il a dit ceux qui pratiquent la piété, et en même temps que le shaitan me fasse des problèmes et me fasse tomber dans les péchés, mais l'essentiel c'est quoi? Je me rappelle et je reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala et me voilà, alhamdoulilah, sur le droit chemin et la clairvoyance. Donc c'est ça la différence entre moi et les autres. Moi je fais des péchés et les autres font des péchés. Mais moi qu'est-ce qui se passe? Moi je reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les autres qu'est-ce qu'ils font? Ils ne reviennent pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils continuent. Voilà la différence entre moi et eux. Sinon, nous tous on fait des péchés. Il a dit, et ceux qui traitent de mensonges nos preuves, le châtiment les touchera à cause de leur perversité. Naam. Et ceux qui traitent de mensonges nos preuves, le châtiment les touchera à cause de leur perversité. Une seconde, c'est pas celui-là le hadith que je cherchais. Une seconde. Une seconde. Tayyib. C'était juste le verset qui vient avant, après celui-là. Al-A'raf 201. Je cherche maintenant Al-A'raf 202. Une seconde. Al-A'raf 202. Ce qui vient après cela. Pour montrer la différence entre nous et les autres. Une seconde. Al-A'raf 202. Bon. Al-A'raf 202. Al-A'raf 202. Donc voilà, quant aux méchants, quand ça s'écrit pas comme ça s'écrit avec un T, ils se sont trompés. Quant aux méchants, leurs partenaires diaboliques les enfoncent dans l'aberration, puis ils ne cessent de s'enfoncer. Vous avez vu? Donc je répète, un peu plus haut. Un peu plus haut, ceux qui pratiquent la piété, lorsque les chétans les touchent, ils se rappellent du châtiment d'Allah et les voilà devenus clairvoyants. Quant aux autres, quant aux méchants et aux pervers aussi, leurs partenaires diaboliques les enfoncent dans l'aberration et ils ne cessent de s'enfoncer. Quant à moi, alhamdoulilah, je fais des péchés, je reviens vers Allah, je demande pardon. C'est ça l'essentiel, bi'idhnillah ta'ala. Tfadlal.
J'ai juste pris le micro pour vous dire de regarder le PV que je vous ai envoyé par la clave.
J'ai pas compris ce que tu as dit, barakallahu fik. Si c'est possible, tu répètes. J'ai pas compris ce que tu as dit. Tfadlal.
Madame Cher, je vous ai juste demandé de regarder votre PV. Je vous ai envoyé le lien d'un frère, Inch'Allah. Enfin, vous verrez, Inch'Allah.
Donc, question suivante, Cher. Question d'une sœur, d'ordre général. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quels sont les meilleurs actes à faire pour être vraiment reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il nous donne? Barakallahu fikum. Et juste une chose, Cher, je me rappelle en postant l'heure sur le salon, sur le site, vous avez indiqué que les cours commençaient à 19h15. Inch'Allah, pour pas que certaines personnes soient trompées, si vous pouvez donc corriger et mettre soit l'heure française ou alors les deux horaires, l'horaire en Algérie et l'horaire en France. Barakallahu fikoum, cher. Même justement, au passage à l'heure d'été, il n'a pas corrigé. Fadal, cher.
Muslim, si j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'il faut écrire 19h45 au lieu de 19h15, c'est vrai? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça, Muslim? 19h45, non. Barakallahu fik. Où est-ce que 19h, mais 20h45, FR. Non. Al-Mohim, moi j'écris d'après les heures algériennes. Ajouter une heure, inshallah ta'ala. L'essentiel, c'est que je vous dise à quelle heure je commence ici en Algérie. Al-Mohim, l'Akh Mohamed, Jazairi, pour le lien que tu m'as envoyé, c'est vraiment difficile pour moi. Yani, je viens de rentrer, mais c'est difficile. Yani, ça me prend beaucoup de temps à cause de, comme tu connais la connexion ici en Algérie, c'est difficile. Donc, d'aller encore dans un autre fichier qui se trouve à l'intérieur pour voir. Mais je te dis en général, si ce fichier, d'après ce que tu dis dans le conseil de savant, dans le conseil permanent de la recherche fait toi en arabe, interdit l'électronarcose, l'étourdissement. Je dis, si à l'intérieur il y a la fatwa du conseil permanent qui dit que c'est interdit, je te dis que l'un des grands savants, Fawzan ou bien un autre, un des grands, a dit que c'était permis. Donc il y a divergence dans cette chose. Les autres ont dit que c'était interdit. Alhamdulillah, machin. Celui-là a dit que c'est permis. Et son dernier est fort. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce qui est interdit, c'est l'égorgement de la bête, hein, quand elle n'est pas consciente. Il a dit, mais ici, si c'est seulement un préambule, c'est juste pour l'étourdir, mais elle est toujours vivante, et quand je vais l'égorger, elle est vivante, et elle, je ne connais pas le mot en français ou le verbe français, c'est-à-dire qu'elle bouge toujours. Pourquoi c'est interdit? Pourquoi c'est interdit dans son animal, par exemple, et de l'égorger? Quand je l'assomme, par exemple, il est évanoui. Il est évanoui. Donc, il ne peut pas se débattre. Le sang ne va pas sortir. Vous avez compris? Le sang va rester à l'intérieur de l'animal et je vais le manger comme ça, je vais tomber malade. Mais, quand je l'étourdis, je l'affaiblis, c'est tout. Il tombe, mais il se débat toujours. Il est en train de se débattre et je vais l'égorger. Dans ce cas, d'après ce grand savant, il a dit c'est permis. Ce qui est interdit, c'est de l'assommer, par exemple, pour ne pas se débattre et le sang va rester à l'intérieur. Mais si je l'étourdis seulement et que je vais l'égorger, il va se débattre et le sang va sortir. Je vous ai dit ça parce que, il y en a pour vous apprendre seulement que Il y a un grand savant qui a dit que c'était permis. Si vous voulez, la prochaine fois, je vous rapporte, c'est qui, Inch'Allah Ta'ala. Mais si vous voulez prendre de l'avis que c'est interdit, de l'avis du comité permanent, Masha'Allah, ce sont de grands savants, comme vous savez, bi'idhnillah Ta'ala. Tfadlal.
Amcha, vous n'avez pas répondu à la question que je vous ai posée, que je vous ai lue. Est-ce que je vous la relis ou c'est bon, Inch'Allah? Tfadal, cher. Ah, la question dit, donc, question d'une sœur, quels sont les meilleurs actes à faire pour être vraiment reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il nous donne? Tfadal, cher.
Une seconde, Inch'Allah Ta'ala, si je peux trouver le fichier de l'étourdissement, si je peux le trouver, peut-être je l'ai, je ne sais pas, peut-être qu'en lisant cette fatwa, peut-être que je l'ai copié, je l'ai mis de côté, peut-être, l'alam. Donnez-moi une seconde, Inch'Allah Ta'ala. J'ai pas trouvé, peut-être que je l'ai pas avec moi, l'alam. Mais je chercherai, Inch'Allah Ta'ala, pour le prochain cours, si vous en avez besoin. Al-Muhim, la personne dit qu'elle sont les meilleurs, peut-être les meilleurs moyens les meilleurs moyens de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Quels sont les meilleurs actes à faire pour être vraiment reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il nous donne, barakallahu fikoum. Je dis, il n'y a pas d'actes comme ça, il y a ni spéciaux ou là en particulier qu'on doit faire. Mais tout ce que tu fais, ce que tu surtout qui est nafila, surérogatoire. Alors, pas obligé de le faire. Et tu le fais, bien sûr, on ne peut pas délaisser l'obligatoire. Mais tout ce que tu fais en plus, Inch'Allah Ta'ala, pour le visage d'Allah, avec dans l'intention que je veux le remercier, alors c'est bien, bi'idhnillah Ta'ala. Ne serait-ce qu'avec le cœur, dans mon cœur, yani, j'agrée les bienfaits d'Allah, je remercie Allah Ta'ala dans mon cœur. Alors, qu'en est-il maintenant avec ma langue? Quand je dis Alhamdulillah pour ceci, Alhamdulillah pour cela, Alhamdulillah Ya Rabbi pour ceci, Ya Rabbi Alhamdulillah pour telle chose, et je cite, pour les enfants, pour la maison, pour le dîn, pour mon mari, pour enfin, pour le ilm, pour. Et je commence à citer. Non, chacun a ses bienfaits que spéciaux à lui, que l'autre n'a pas, vous comprenez? Donc chacun, yani, remercie Allah subhanahu wa ta'ala personnellement pour ses bienfaits à lui. Et maintenant, il y a avec les actes, en faisant la prière nafila, en donnant de l'argent, en aidant un pauvre, en allant à l'hôpital voir un malade, en souriant à quelqu'un, yani, il y a des milliers et des milliers de choses qu'on peut faire. Alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a laissé les portes grandes ouvertes et n'a pas spécifié. S'il avait spécifié trois ou quatre choses, peut-être que pas tout le monde peut les faire. Mais comme ça, il t'a laissé la voie, la porte grande ouverte. Fais des choses, yani, qu'Allah Ta'ala aime, c'est-à-dire légiférer, et fais-les pour Allah, sincère. Inch'Allah Ta'ala, tu vas remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. Question d'une sœur qui dit: une jeune personne a eu de nombreuses épreuves dans sa vie, walhamdoulillah. Mais là, elle commence à ne plus supporter, même si elle sait qu'il y a toujours un bien derrière une épreuve. Ça lui est donc difficile de supporter, car ce sont souvent des épreuves qui durent dans le temps, qui durent sur le temps. Là, elle fait le minimum obligatoire sur les obligations religieuses et se sent lourde par rapport aux obligations religieuses et sur ce qui est surérogatoire. Elle n'arrive plus à supporter ses épreuves, même si elle s'estime heureuse que sa situation ne soit pas pire et qu'Allah ne nous donne pas des épreuves que l'on ne peut pas supporter. Quel conseil pouvez-vous donner à cette personne attristée et comment devenir reconnaissant vers Allah? Barakallahu fikoum.
Naam, wa alaykoum salam, wa rahmatullah wa Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous savez, ne donne jamais une épreuve qu'elle ne peut pas supporter. Mais Allah ta'ala regarde les cœurs et la foi de la personne. Et c'est d'après sa foi qu'il lui donne. C'est pour ça que les épreuves que les messagers ont eues sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lourdes et importantes que les épreuves des autres, de tous les autres qui ne sont pas messagers. Et les épreuves de Abu Bakr Siddiq et de Omar et de Uthman et de Ali sont beaucoup supérieures aux épreuves des autres sahaba est comme ça. Plus la foi est élevée, plus les épreuves sont lourdes. Et ça devient quoi? Ça devient yani, relatif. Ça veut pourquoi? Parce que la foi est grande, qu'Allah Ta'ala a donné une lourde épreuve. Car ça marche avec la foi. Allah Ta'ala sait que la foi grande supporte la grande épreuve. Et sait que la foi faible supporte seulement une faible épreuve. Sinon, à ceux qui ont une petite foi, il va leur donner de grandes épreuves, ils vont tous couler. Ils vont tous couler. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdoulilah, il est latif et il est miséricordieux. Il dit à cette personne, l'essentiel c'est quoi? L'essentiel, inshallah ta'ala, c'est d'accepter et de patienter. Et Allah ta'ala te fera une issue. C'est lui qui a dit. Il a dit que il a dit que toute personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui est pieuse, il lui fera une issue favorable. Donc, même si ça dure, alhamdoulilah, tu n'es pas perdante. Il y a toujours les péchés qui sont absous d'un côté, et si tu patientes, il y a les récompenses qui vont yani, s'inscrire bi'idhnillah ta'ala. Ça n'empêche pas, inshallah ta'ala, de chercher une issue. Ça n'empêche pas de chercher une issue. Par exemple, des fois, le malheur, c'est que, je donne un exemple. Le malheur vient à cette sœur du fait que elle n'arrive pas à trouver de mari. Par exemple, elle est toujours. Voilà, ça fait 10 ans qu'elle attend, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est un exemple. D'un côté, elle ne doit pas se rebeller contre Allah subhanahu wa ta'ala, se rebeller contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, alhamdoulilah, elle dit toujours, alhamdoulilah, ala kulli hal, qaddar Allahu ma sha fa'al. Mais de l'autre côté, ça n'empêche pas qu'elle demande de l'aide. Qu'elle demande de l'aide, par exemple, aux personnes qu'elle connaît, aux sœurs qu'elle connaît. Si vous connaissez quelqu'un de mariable et quelqu'un qui remplit les conditions, alors dites-lui, parlez-lui de mon cas. Parlez à vos maris, elle dit aux sœurs qu'elle connaît. Elle leur dit, parlez à vos maris. Vos maris qu'ils me cherchent, yani des amis à eux. Naam. Et comme ça. Donc, en même temps, elle accepte et en même temps, elle cherche une solution, bi'idhnillahi ta'ala. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala aider cette sœur et lui remplir son cœur de bonheur, de joie. Joie et naam. Amin. Tfadal.
Cher, concernant la fatwa sur l'étourdissement, je vous ai envoyé un petit passage que j'ai trouvé, mais le document est un peu loin, c'est peut-être ce que vous étiez en train de chercher. Regardez sur le PV, cher, et dites-moi si c'est ce que vous cherchiez. Tfadal, cher.
Cher, moi aussi, je vous ai envoyé un passage qu'un frère m'a envoyé, donc par la même occasion, regardez si ça correspond.
Naam, ce passage est Masha'Allah que tu vas envoyer de l'autre. Je le colle d'abord, je le colle d'abord. Et peut-être, Wallahu alam, peut-être c'est ce que j'ai lu. Peut-être moi aussi c'est ce que j'ai lu, Wallahu alam. Et j'ai dit que c'était un grand savant, peut-être c'est le comité, Wallahu alam. Dites-moi si ça s'est affiché, dites-le-moi. C'est affiché. Alhamdoulilah. Donc regardez, on a demandé au comité permanent, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-il permis de consommer la viande des bêtes égorgées après avoir été engourdies? Nous portons à votre connaissance qu'en Allemagne, les lois régissent l'abattage et qu'il n'est permis de tuer aucun animal qu'après engourdissement. Réponse, si l'animal est toujours vivant après l'engourdissement et qu'il est sacrifié de manière légale, il est licite. Mais s'il meurt après l'engourdissement, il est illicite. Il n'est d'aucune utilité qu'il soit égorgé par la suite. Fais-toi le jnada ima, etc. Donc, Inch'Allah Ta'ala, c'est ce que j'ai lu. C'est ce que j'ai lu. Jazairi, est-ce que tu as la même chose? Est-ce que tu as la même chose, Jazairi? D'accord, je vais lire Inch'Allah Ta'ala. Minhaj, une seconde. Non, une seconde, si ça veut s'afficher aussi. Une parole de Cheikh Ibn Uthaymeen, si ça veut s'afficher, une seconde. Coller. Send. Si ça s'affiche, dites-le moi, inchallah ta'ala. Est-ce que si ça s'est affiché? Ça s'est affiché là, alhamdoulillah. Donc je lis, inchallah ta'ala. On a posé la question à Cheikh Ibn Othaymine. Si la bête est soumise à un courant électrique et qu'ensuite elle est toujours vivante et sacrifiée, est-elle licite? Elle est licite. Et le signe qu'elle est toujours vivante est que lorsqu'on l'égorge, le sang jaillit. Alors qu'il ne fera que s'écouler si la bête est morte et il aura commencé à coaguler. Et la preuve, c'est la parole d'Allah. Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang qu'on a fait couler, la chair, le porc, la chair de porc, sur ce quoi on a invoqué un autre dans un, il a terminé le verset. Et cette bête est totalement semblable à la bête étouffée, mais en laquelle il reste un souffle de vie. Ainsi, si elle est égorgée alors qu'elle est toujours vivante, elle est licite. Alhamdoulillah. Donc, c'est comme j'ai dit, à cause du sang, etc. Je te demande, Abou Zakaria, si tu m'entends, je te demande, inshallah ta'ala, de copier ce que tu m'as envoyé et ce que m'a envoyé Cheikh, ce que m'a envoyé Muslim, et de les mettre dans un fichier à part. Comme ça, yani, un jour, je te demanderai de me les envoyer après pour les mettre dans un fichier pour les avoir toujours, inshallah ta'ala, avec moi. Inch'Allah ta'ala. Tfadla pour une autre question.
Tafadhal Muslim, il me semble que c'était à toi.
Alors, question suivante, question d'une sœur, d'ordre général. Salam alaikum wa rahmatullah, cher. Qu'Allah vous récompense, à vous, ainsi qu'aux admins. Amin. Avec deux sœurs, nous avons créé un collectif pour venir en aide aux sans-abri de Bruxelles, en leur offrant un colis alimentaire, et nous rendons visite à des enfants dans des orphelinats pour leur donner des jouets. Est-ce que l'on peut donner des colis alimentaires à des personnes qui ne sont pas musulmanes, sachant que l'on ne peut pas vérifier si chaque personne est musulmane? Et est-ce pareil pour les enfants dans les orphelinats? Wa jazakumullahu khairan. Tfadashir.
C'est permis en islam de donner actuellement, si c'est dans le but de l'attirer vers l'islam et dans la condition où il n'y a pas un musulman devant lui qui est plus nécessiteux que lui. Vous avez compris? Maintenant, si une personne, je ne peux pas savoir si elle est musulmane ou pas, et il n'y a pas comment vérifier, je peux lui donner. Et même si je sais qu'elle n'est pas musulmane, je peux lui donner, bi-idhnillahi ta'ala, surtout, 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 si c'est dans le but de l'attirer, inshallah ta'ala, vers l'islam, ou du moins pour qu'elle pense du bien des musulmans, inshallah ta'ala. Une seconde, inshallah ta'ala, un verset ici. Une seconde, je vais vous citer un verset ici qui va vous réconforter, inshallah ta'ala. Une seconde. Une seconde. Peut-être que je vais trouver le verset ici. C'est pas celui-là. Voilà ce verset. Regardez ce verset, inshallah ta'ala. Regardez ce verset. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ويسيرا. En français, ça donne. Et Allah subhanahu wa ta'ala est en train de faire des éloges à certains gens. Que font ces gens? Il a dit, ils offrent la nourriture malgré son amour. Malgré que la personne aime cette nourriture, mais elle la donne. À qui? Aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Je demande à Muslim ou bien à Al-Jazairi de me montrer, inshallah ta'ala, dans ce verset, où est la preuve que, yani, ce que j'ai dit à la sœur, que c'était permis qu'elle donne, inshallah ta'ala, au kafir. J'attends, inshallah ta'ala, de vous pour vous aider un peu et vous entraîner à ce que vous deveniez, inshallah, des talibouin. Où est dans ce verset ici que je peux donner à un kafir? Allah ta'ala a fait des éloges en disant, il donne la nourriture, malgré qu'il l'aime, aux pauvres, à l'orphelin, aux prisonniers. Le Jazayri a dit, le hukm est général, sauf s'il y a un dalil. C'est pas ce que je cherchais. C'est pas ce que je cherchais. Est-ce qu'il y a autre chose? malgré son amour. Non, oui, le délit du kafir. C'est pas ce que je cherchais. Envers. Aya Zichouya, cherche encore un peu. Le alif à la fin, non. Non. Bon, pour vous donner encore quelques temps, pour vous donner quelques secondes, je vous ajoute un autre dalil. La zakat, c'est plus important que l'aumône. La preuve, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui a décidé qu'on la donne seulement en 8 sortes. Tellement elle est difficile, etc. Elle est importante. Et dans cette sorte, qui l'a cité? Il a dit le mot Allafati Kouloubouam. Il a dit, c'est permis de la donner pour certains gens, pour, il a dit, pour épancher leur cœur. Gens, ce sont qui? Ce sont les kafirs. Tu donnes au kafir pour le faire entrer en islam, tu lui donnes la zakat. La zakat qui est obligatoire. Qu'en est-il maintenant? Moi, je vais donner quelque chose qui n'est pas obligatoire. Je vais la donner au kafir. Donc, ça, c'est un deuxième délit. Mais puisque vous n'avez pas trouvé dans le verset que j'ai cité, alors laissez-moi le reciter une deuxième fois. Naam. Et vous osez. Or, sa nourriture. Regardez, c'est très simple là. Si vous aviez seulement un peu réfléchi et demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de vous aider. Il a dit, en faisant les éloges, il a dit, et ils offrent la nourriture. Malgré son amour, malgré qu'il aime la nourriture, il la donne à qui? Aux pauvres. Saha. À l'orphelin. D'accord, tu vas dire le pauvre il est musulman. L'orphelin il est musulman, il n'y a pas de preuve qu'il est kafir. Et aux prisonniers. Un prisonnier ne peut pas être musulman. C'est toujours un kafir qu'on prend et l'on met en prisonnier. Et celui-là, il a dit, tu peux lui donner la nourriture. Voilà là, le dalil. Fadlal.
Une question d'une sœur d'ordre général. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une personne reconvertie veut vendre sa maison pour faire la hijra, ainsi que pour son fils, qui est également reconverti. Alhamdulillah. Mais cette maison, elle l'avait achetée en étant kafira, donc en faisant des intérêts. Donc lui est-il halal de prendre cet argent pour sa hijra, et lui est-il permis que si elle achète un appartement, de payer une somme dès le début, pour après la payer petit à petit chaque mois, mais bien sûr sans riba. Wajazakumullahu khairan. Tfadal cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatouh. Naam, cette personne qui a fait l'hur, la riba, elle reconnaît avoir fait ça en étant, et quoi? En étant kafira. Quelqu'un qui est kafir, ça veut dire que pour lui ici, il n'y avait pas de haram. Naam, car elle ne savait pas et de l'autre côté, elle était kafira. Même si le kafir lui aussi, entre parenthèses, il ne doit pas faire le haram. Mais elle ne savait pas, elle était kafira. Donc je lui dis que cet argent, inshallah ta'ala, après la tawba, il devient halal. Après être rentré en islam, c'est toujours son argent. C'est toujours son argent. Et afallah amma salaf, comme il a dit dans le Coran. Et pour la deuxième question, c'est permis donc d'acheter, avec cet argent, d'acheter un appartement. Et de quoi? Et de payer d'abord une somme, comme elle dit ici, dès le début. Ensuite, payer petit à petit, c'est-à-dire par trait. Premier trait, deuxième trait, troisième trait. Et comme ça, c'est permis puisqu'il n'y a pas d'usure, inshallah ta'ala. Puisque ça s'appelle payer par facilité. Le prophète alayhi lui-même l'a fait. Aïcha a acheté quoi? A acheté la vente en payant avec 9 awqiyas et chaque année elle payait une awqiyah. Elle l'a acheté avec 9 et chaque année elle payait une. C'est-à-dire pendant 9 ans elle a acheté quoi? Sa servante et le prophète sallam était présent. Et ne lui a pas dit que c'était interdit. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. Question. Assalamu alaikum. Hafizakumullah, ya cher. Pourriez-vous, s'il vous plaît, rappeler la parole? Aucun bienfait ne disparaît si tu en es reconnaissant et aucun bienfait ne perdure. Jazakumullah khaira.
Afwan, Akhi, je n'ai pas entendu la question. J'ai entendu seulement quelques mots. Est-ce que c'est possible de répéter, Inch'Allah Ta'ala? Et dites-moi si ça sert ce que j'affiche ou ça s'affiche pas.
Donc, en fait, la question, cher, du frère ou de la sœur, je ne sais pas, était, pourriez-vous, s'il vous plaît, rappeler la parole, aucun bienfait ne disparaît si tu en es reconnaissant, et aucun bienfait ne perdure, etc. Donc, si vous pouviez la répéter, barakallahu fikum, cher.
Donc, inchallah ta'ala, une seconde, je suis en train de chercher l'accord. Et dites-moi, cette personne veut seulement que je répète ou là, elle veut l'explication aussi? Répétez la parole, d'accord. Al-Maharajouri, rahimahullah, a dit, aucun bienfait ne disparaît si tu te montres reconnaissant. Et aucun bienfait ne perdure si tu le renies. Je répète, aucun bienfait ne disparaît si tu te montres reconnaissant. Et aucun bienfait ne perdure si tu le renies. Non. Faut